Radio Kapi.
Prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Après l'Assemblée nationale et à la suite des explications de la ministre de la Justice, les sénateurs ont voté à l'unanimité hier pour ce projet de loi qui sera transmis au chef de l'État pour promulgation. Après la récente éruption du volcan Nyiragongo, de l'aide vient de partout en faveur des sinistrés, mais leur canalisation et distribution posent problème. Téné, des listes parallèles, des faux bénéficiaires et une politisation de cette aide, la société civile de Goma interpelle la cellule de crise. Et puis, célébration aujourd'hui 5 juin de la Journée mondiale de l'environnement, le thème « Restaurer les écosystèmes, la problématique des écosystèmes et les nouvelles stratégies à l'échelle mondiale pour rendre la Terre habitable d'ici à l'horizon 2050 ». Pour en parler, nous recevons Charles Wasikama, expert analyse au programme environnement changement climatique au PNUD. Madame, Messieurs, bonjour. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté hier le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC. Au cours de la même plénière, le Sénat a examiné en deuxième lecture la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones et celle de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Le Sénat a également adopté le calendrier de l'élection du premier vice-président en remplacement de Sami Badibanga. Élection prévue pour le samedi 12 juin prochain. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
À propos de la prorogation de l'état de siège, après les explications données par la ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiese, tous les 88 sénateurs présents à la plénière ont voté à l'unanimité pour le projet de loi qui sera transmis au chef de l'État pour la promulgation. Modeste Baati-Lukwebo, président du Sénat.
A voté le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège. Il sera transmis au président de la République pour promulgation.
La ministre de la Justice pense déjà à une prochaine prorogation. Rose Mutombo.
Pour ce qui est de différentes prorogations qu'on aura à faire, les discussions ont déjà commencé au sein du gouvernement pour voir s'il ne faut pas prendre une loi d'habilitation qui va permettre à ce que nos forces armées continuent le travail commencé.
Signalons qu'au cours de la même plénière, le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle a été traité à huis clos et la plénière a décidé de le confier à une commission spéciale qui présentera son rapport à la plénière en vue de décider du sort de l'ancien premier ministre Augustin Matata-Mponyo.
Nous ne pouvons aller aux élections avec des lois iniques et des personnes qui vont favoriser un camp. C'est la réaction de la plateforme politique Lamuka à l'examen de loi portant organisation de la CENI à l'Assemblée nationale. Au cours d'une conférence de presse hier à Kinshasa, Martin Fayulu, président du parti politique SID, membre du présidium de Lamuka, demande au président de l'Assemblée nationale d'arrêter l'examen de la loi portant organisation de la CENI. Martin Fayulu le dit au micro de Paul Matendo Mayamba.
Nous ne pouvons pas aller aux élections avec des lois qui sont des lois iniques, avec des lois et des personnes qu'on va mettre en place pour favoriser un camp. Nous voulons éviter ça au peuple. C'est pour cela que nous disons au peuple congolais, c'est toi le souverain primaire. L'article 5 le consacre. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, ces gens-là veulent maintenant nous déranger. Il faut barrer la route à ces gens-là et je demande à M. Mbosso et à son assemblée national d'arrêter cette aventure parce que c'est une aventure dangereuse. Mobutu, paix à son âme, il est parti, il nous a laissé une chose, il nous a laissé quand même l'unité nationale, la cohésion nationale. Aujourd'hui, le pays est totalement divisé et nous cherchons la cohésion nationale. Il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là qui va nous conduire aux élections.
Le Parlement européen soutient la RDC dans la lutte contre l'impunité à plusieurs niveaux. C'est ce qu'a dit hier à Bruxelles la députée européenne Marie Arena, présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. C'était à l'occasion de la conférence publique autour du thème « Présentation du document d'analyse sur impunité et justice transitionnelle en République démocratique du Congo, un défi à saisir pour l'Union européenne ». Marie Arena s'exprime au micro de Jeff Ngoy.
L'Europe a aussi un partenariat en matière de développement avec la République démocratique du Congo. Et dans ce sens, elle soutient et elle soutiendra des projets qui renforcent le système de justice en République démocratique du Congo. Par ailleurs, nous avons pris une loi au niveau européen sur les minerais et les conflits qui permet d'éviter effectivement que l'exploitation de ces minerais ne finance les luttes armées aujourd'hui à l'est du Congo. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et elle devra bien entendu concerner l'exploitation des minerais en République démocratique du Congo.
Signalons qu'au cours de cette conférence publique, le prix Nobel de la paix congolais, Dr Denis Mukwege, a exposé sur « Crimes de guerre et contre l'impunité en RDC, 30 ans d'impunité ». Nord Kivu, plusieurs assistances en faveur des déplacés et sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo sont enregistrées, mais leur canalisation et distribution posent un grand problème. C'est ce qu'a déclaré la société civile urbaine de Goma hier à Radio Kapi. Son président dénonce entre autres des mégestions, des listes parallèles, des faux bénéficiaires, mais aussi une certaine politisation des aides humanitaires apportées aux populations. Marion Gavo exhorte la cellule de crise présidée par le gouverneur du Nord Kivu et les humanitaires de veiller à une bonne canalisation de ces dons afin qu'ils atteignent les vrais bénéficiaires et selon le degré de vulnérabilité. Marion Gavo, président de la société civile urbaine de Goma, au micro de Sifa Maguru.
Des aides pilules de tous les coins, commençant par le gouvernement provincial, mais également des fondations caritatives comme celle de la première dame, certains politiciens et personnes de bonne volonté. Malheureusement, déjà, il y a des lamentations sur la mauvaise gestion de ces aides. Des listes parallèles, des listes de faux bénéficiaires, une politisation de cette aide et surtout la mégestion de l'aide qui est déjà accordée. Nous avons le cas des cris d'alarme qui viennent déjà de Kiwanja, de Kibati, pour dire que certaines personnes n'étant même pas de bénéficiaires directs bénéficient au détriment des vrais bénéficiaires. Cette aide devrait être distribuée en fonction des prorata des incidents. Comme vous le savez, il y avait les gens qui ont perdu leur maison. Il y a ceux qui ont perdu leurs biens. Il y a déjà des traumatisés. Il y a déjà des malades et des personnes qui souffrent déjà de crises.
Marion Gavo ajoute que ces personnes déplacées ont plus besoin de la nourriture, des médicaments essentiels, de l'eau potable, des effets ménagers ainsi que des abris, rappelant qu'environ 420 000 personnes se sont déplacées suite à l'éruption du volcan Nyiragongo, prenant plusieurs directions, notamment Minova, Bukavu, Rutshuru jusqu'à Beni. Par ailleurs, dans le territoire de Calais au sud Kivu, au moins 60 000 personnes déplacées de Goma se trouvant à Minova et environ, ainsi que la population autochtone, reçoivent une assistance en vivres depuis lundi. Cette assistance est organisée par le PAM et World Vision. Elle est composée essentiellement de la farine, de l'huile, des haricots et autres. C'est pour plus ou moins 10 jours, indique le président des déplacés. En outre, le ACR et d'autres ONG ont érigé quelques abris pour les déplacés, mais plusieurs familles commencent à rentrer à Goma à cause des mauvaises conditions. Sifa Maguru nous en parle.
Prince Kiangi, député provincial du Nord Kivu et président des déplacés de Goma à Minova, salue d'abord cette amélioration des conditions des déplacés, contrairement aux premiers jours, grâce aux efforts des humanitaires. Il note que malgré ces efforts, des difficultés demeurent, notamment sur le plan sanitaire et du logis. C'est ce qui explique en partie les raisons qui font que plusieurs familles déplacées regagnent Goma avant l'autorisation des autorités. Prince Kiangi n'a pas manqué de saluer l'hospitalité de la population de Minova pour avoir accueilli un grand nombre de déplacés dans leur famille.
C'est pour dire que les conditions sont assez bonnes parce que, comme je viens de le dire, la population de Minova nous a bien accueillis, sauf qu'il manque aux déplacés des logis, parce qu'on s'est retrouvés dans les écoles, dans les hôpitaux. D'autres déplacés devaient passer nuit à la Belle Étoile. C'est dans des conditions aussi pénibles. Et petit à petit, nous analysons comment retourner à Goma s'il n'y a plus assez de risques.
Cet élu provincial du Nord Kivu note qu'aucun dispositif d'accueil ni de retour ne soit pris par les autorités provinciales. Depuis Bukavu, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle pour les voyageurs de la province du Kasaï-Oriental. Un laboratoire de test COVID voyage est désormais disponible à Mbujimayi. Ce laboratoire Saint-Raphaël est une œuvre de la Fondation Maison Pungwe. Au cours de la visite jeudi des installations de cet ouvrage, le ministre provincial de la Santé ad intérim a apprécié les équipements utilisés pour le test COVID-19 ainsi que les médicaments pour la prise en charge des cas positifs. Esther Ndalafina nous en dit plus.
Aussitôt arrivé au laboratoire Saint-Raphaël, le ministre provincial de la Santé ad intérim est passé lui-même au test rapide de COVID-19. Liévin Bouyamba n'a pas caché sa joie.
C'est d'abord une joie. Il fallait vraiment que je vienne pour me rassurer qu'effectivement tout était prêt, qu'ils peuvent vraiment travailler. Je les autorise à pouvoir fonctionner. Ils ne sont pas seulement ici, ils sont à Lubumbashi, à Kinshasa. Et voilà, aujourd'hui, ils sont chez nous, c'est une joie.
D'après la vice-présidente de la Fondation Maison Pungwe, les listes de personnes diagnostiqués seront chaque jour déposés au gouvernement provincial.
Entrez ici chez nous, c'est entre 1h et 1h30, vous avez votre question. D'abord, chaque soir, le gouvernement provincial aura la liste de toutes les personnes qui sont venues tester chez nous. Comme ça, il pourra savoir comment prendre en charge les cas positifs. Parce qu'une population saine est mieux qu'une population malade. Nous venons en appui à l'État.
Signalons que ce laboratoire est implanté à Mbujimayi au moment où la province du Kasaï-Oriental fait face à une recrudescence des cas de COVID-19. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Par ailleurs, quelques jours après le lancement des activités de vaccination anti-Covid, la fréquentation est très faible dans les trois sites que compte la zone de santé de Beni, constat fait par Radio Capi après une ronde effectuée sur ces sites. Selon différents responsables rencontrés, plusieurs causes sont à la base de cette faible fréquentation, dont l'absence de sensibilisation. Guylaine Kassassia nous en parle.
À l'hôpital général de référence de Beni, par exemple, depuis mardi dernier, jour du lancement de cette campagne de vaccination, seuls 35 personnes se sont faites vacciner. Selon Masikini Jean-Baptiste, chargé de vaccination et prise en charge de la COVID-19 dans cette structure sanitaire, cette faible fréquentation serait due aux rumeurs autour du dit vaccin. Aussi, le fait que les personnes âgées, celles vivant avec les maladies chroniques, sont le premier visé par cette vaccination, certains se croient moins concernés. Pour sa part, Kambale Mouniama Moïse, président de l'Ordre des infirmiers en ville de Beni et prestataire au centre hospitalier Charles Becker, pense que la sensibilisation n'est pas encore au top, car là, seules 8 personnes se sont faites vacciner jusqu'à. Enfin, au centre hospitalier évangélique Beni Dignakoundé, c'est ce vendredi que les activités de vaccination commencent. Quelques personnes rencontrées sur les sites de vaccination de l'hôpital général de référence de Beni et qui viennent de recevoir leur première dose encouragent d'autres à venir, car il n'y a rien à craindre. Beni, Dulen Kassassia, Radio Okapi.
Santé toujours. Dans la province du Kwango, une épidémie de fièvre typhoïde a été confirmée dans la zone de santé de Popokabaka par l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Depuis le début de cette année, plus de 360 cas sont enregistrés, dont 17 décès, a indiqué le chef de division provinciale de la santé du Kwango. Dr Aimé Kayolo annonce dès la semaine prochaine le lancement par le gouvernement provincial avec l'appui des Médecins sans frontières de la campagne de sensibilisation. Il appelle cependant la population à respecter les règles d'hygiène alimentaire pour lutter contre cette maladie. Irène Mboma, reportage.
Le chef de division provinciale de la santé du Kwango joint au téléphone a précisé qu'au total 365 cas de la fièvre typhoïde sont enregistrés dans cette zone de santé depuis la première semaine de l'année en cours. Parmi ces cas, le docteur Aimé Kayolo indique qu'il y a eu 45 cas compliqués de perforation intestinale et 17 décès, dont 10 en post-opératoire. Pour le docteur Aimé Kayolo, la fièvre typhoïde est une maladie des mains sales. Tout en appelant la population de Popokabaka à l'application l'application des mesures d'hygiène alimentaire, il annonce pour la semaine prochaine le lancement de la campagne de sensibilisation contre cette pathologie.
À la population de bouillir l'eau des boissons, laver régulièrement les mains, de bien cuire les aliments et ne pas consommer les aliments exposés à l'air, surtout les types de poissons appelés communément makwala qui est vraiment en vogue là-bas à Popokabaka. Le gouvernement provincial a pensé lancer une campagne avec beaucoup de sensibilisation la semaine prochaine avec une équipe de médecins sans frontières qui va nous accompagner.
Notez qu'après prélèvement des échantillons à Popokabaka par une équipe de l'INRB, cette institution a confirmé l'épidémie de fièvre typhoïde dans ce territoire du Kwango. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Réunis hier à Brazzaville, les chefs d'État de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont décidé de se conformer à la position de l'Union africaine concernant le Tchad. Les présidents João Lourenço d'Angola, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ont annoncé leur volonté d'accompagner la transition au Tchad. Le gouvernement nigérian a annoncé hier dans un communiqué avoir suspendu les activités de Twitter dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, cela 2 jours après la suppression par le réseau social d'un tweet du président Muhammadu Buhari. Entre-temps, Facebook a prolongé hier jusqu'en janvier 2023 au moins la suspension de Donald Trump de son réseau social et a annoncé une modification de ses règles concernant le traitement réservé aux responsables politiques qui violent ses conditions d'utilisation. Église catholique, un important cardinal allemand a présenté sa démission au pape François en raison de la catastrophe des abus sexuels, un geste du cardinal Reinhard Marx qui s'inscrit dans la prise des responsabilités voulues par le souverain pontife.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Charles Wasikama, expert analyste au programme Environnement, Changement climatique, au programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. Aujourd'hui, 5 juin, c'est la Journée mondiale de l'environnement. Cet expert s'exprime sur le thème retenu cette année, à savoir restaurer les écosystèmes, la problématique des écosystèmes et les nouvelles stratégies à l'échelle mondiale pour rendre la Terre habitable d'ici à l'horizon 2050. Charles Wasikama s'entretient avec Jean-Pierre Ilali Coco.
Charles Wasikama, bonjour.
Bonjour.
Ce samedi 5 juin marque la Journée mondiale de l'environnement et en même temps le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Alors, pour le commun des mortels, que peut-on entendre par écosystème et pourquoi toute une décennie pour leur restauration?
Merci beaucoup. Un écosystème, c'est un ensemble d'êtres vivants qui interagissent au sein et avec un milieu spécifique. On peut prendre la forêt. La forêt contient des animaux, des végétaux qui interagissent entre eux. Donc les végétaux permettent aux animaux de vivre, les animaux aussi permettent aux végétaux de se reproduire, etc. Donc il y a une interaction entre ces êtres vivants et par rapport à eux-mêmes et par rapport à leur milieu.
Et pourquoi toute une décennie pour leur restauration?
Ouais, si vous avez remarqué, durant tout ce temps, on parle de changements climatiques qui sont en grosse partie une conséquence des activités humaines, de leur mode de consommation, etc. Et on voit que il y a même des échéances qui sont données. Si on ne change pas la façon de se comporter, il y aura un réchauffement global et on va atteindre l'irréversibilité.
Donc c'est... Quelle est cette échéance pour le cas d'espèce?
On parle de 2030, 2050, voilà, 2100, voilà. Donc d'ici 2050 déjà, on devrait arriver à un environnement qui soit neutre en carbone. La destruction de l'environnement est telle que tout le monde qui est avisé essaye de voir comment arrêter cela et infléchir la tendance. Donc c'est ça la problématique mondiale. Donc il ne se passe pas une journée sans qu'on parle de problèmes de réchauffement climatique et on veut avoir des solutions qui sont basées sur la nature.
Oui, justement, comme vous l'avez dit, les hommes ont détruit la moitié des zones humides de notre planète. C'est quand même énorme et c'est alarmant. Par quel mécanisme et quelle nouvelle stratégie peut-on arriver à renverser la vapeur, monsieur Lespère?
C'est énorme, comme vous avez dit, c'est d'ailleurs ce qui justifie le fait qu'on accorde toute une décennie pour y travailler en profondeur. Alors, changer les habitudes et tout, ça demande réellement beaucoup de transformations dans différents paradigmes, dans différentes façons de voir les choses. Et c'est pourquoi, au niveau des Nations Unies, il y a une stratégie de la décennie des Nations Unies pour restaurer les écosystèmes. Cette décennie des Nations Unies est mise sous l'égide du programme des Nations Unies pour l'environnement et de la FAO. Et dans ce cadre-là, il y a 10 grandes mesures qui ont été proposées et qu'on peut facilement trouver sur le site du programme des Nations Unies pour l'environnement.
Oui, nos amis peuvent aller sur le site pour constater plutôt ces dispositifs. Revenons en RDC, des politiques ont été menées pour préserver les écosystèmes, comme vous l'avez dit, mais le déboisement et l'exploitation forestière continuent à un rythme effréné. Quelle alternative le PNUD, votre organisation, peut-il proposer au gouvernement pour soit prévenir, soit restaurer nos forêts?
Je crois que la réponse est simple parce qu'il y a déjà cette décennie qui sera lancée le 5. Déjà le lancement d'un mouvement que nous devons, nous, la RDC, intégrer, n'est-ce pas? Parce que, comme j'ai parlé de la stratégie qui est là, c'est ça qui va cadrer un peu les actions. Dans le cadre de ces stratégies, vous avez d'abord, un, le cadre vous donne le pouvoir de mettre en place des initiatives et de mobiliser, n'est-ce pas, des appuis financiers, des appuis techniques pour aller de l'avant. Donc c'est déjà quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Deux, il faudra investir, n'est-ce pas, dans la restauration. Ça, c'est une des mesures. Trois, mettre en place des bonnes incitations. C'est-à-dire qu'au lieu d'encourager les pratiques qui vont dans le sens contraire, qui vont vers la destruction, voilà, faire l'inverse. Reconnaître, n'est-ce pas, le leadership, ceux qui font des bonnes choses. Il y a déjà des pays et même des groupes qui ont lancé des initiatives des milliards d'arbres. Hein, vous entendez parler de ça. Même en RDC, on a 1 milliard d'arbres à planter. Donc,
c'est une initiative du président de la République.
Voilà. Donc, il faut appuyer ces genres de choses et reconnaître ceux qui ont des initiatives comme ça, les renforcer là où ils sont faibles. Il faut changer de comportement. Hein. La consommation doit être responsable, investir dans la recherche, parce qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui ont été détruits. Comment restaurer cela? Il faut connaître la science qui est derrière. Donc il y a plusieurs types d'écosystèmes qui sont très différents. Il faut vraiment investir dans la recherche.
Charles Wasikama, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Voilà, c'était là notre invité, Charles Wasikama, expert analyste au programme Environnement Changement Climatique au PNUD. Il s'entretenait avec Jean-Pierre Elali Ikoko. C'est la fin de ce journal supervisé par Ben Kabamba. Coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de rester des nôtres. L'actualité continue sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.